Gloire au Seigneur. Je vous invite à ouvrir le Saint-Livre dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2, et à partir du verset 23. Donc nous lisons Marc, chapitre 2, verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat était fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit, « T'as l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Amen. C'est un texte qui est toujours frappant et marquant. Et cet après-midi, plaise à Dieu qu'au travers de ce texte, nous puissions découvrir véritablement le plan du salut et ce que Jésus-Christ a prévu pour chacun d'entre nous. Pour introduire cette réflexion, nous allons durant quelques instants juste parler du sabbat. Vous savez, les pharisiens, eux, la seule chose qui les intéressait, c'était de pouvoir critiquer Jésus, de pouvoir essayer de piéger Jésus. Et ils ne souciaient de rien d'autre si ce n'est de cela. Et lorsque nous les voyons questionner Jésus à propos de ce que faisaient les disciples, on comprend que derrière cela, c'était leur cœur qui était animé de mauvaises pensées. Et Jésus va leur répondre. Et cette réponse va nous intéresser, parce que dans la parole de Dieu, au travers de la réponse de Jésus-Christ, nous voyons quelque chose qui est continuel. On pourrait le traduire de cette manière pour que vous puissiez, là où je veux en arriver cet après-midi, c'est que d'un côté, il y a la pensée de Dieu, il y a les projets de Dieu, il y a les plans de Dieu, et d'un autre, nous voyons ce que les hommes ont fait de cette pensée, ce que les hommes ont voulu faire des projets de Dieu et des plans de Dieu pour l'humanité. Et ça reste là, en fond, en filigrane, de beaucoup d'échanges entre les pharisiens et Jésus-Christ. À de nombreuses reprises, nous voyons Jésus qui reprend des personnes, qui reprend des hommes qui connaissaient la loi, en leur disant « mais voilà, votre manière d'agir, votre manière d'être annule la parole de Dieu. » Et Jésus enseignait. Jésus était en train de leur dire, mais ce qui est important, ce qui est peut-être même primordial, c'est que vous puissiez saisir le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour votre vie. Et c'est cela qui doit nous intéresser cet après-midi. Parce que si nous sommes là pour écouter un message de plus, uniquement pour nourrir notre intelligence, on verra bien vite que cela ne pourra pas produire de fruits. Mais si on vient avec le cœur ouvert, rempli de foi, en se disant « mais peut-être que le Seigneur a des projets pour moi, peut-être que je peux être au courant de la volonté de Dieu pour ma vie », alors là les choses vont changer. La suite de ce texte, et c'est bien évidemment ce texte qui va nous intéresser cet après-midi, c'est Jésus qui rentre dans une synagogue et la Bible nous dit qu'il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Luc, dans son évangile, va rajouter la main droite. Et peut-être c'est un détail qui n'a pas trop d'importance pour vous, mais c'est là pour nous montrer que la main droite, c'est le symbole de son activité, de l'activité de l'homme. Et on comprend que cet homme ne pouvait rien faire, d'une part, mais on comprend aussi que cet homme était en vie. Et là, vous me dites, c'est évident. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, lorsque il est noté comme ça des maladies, des infirmités, derrière cela, on comprend que ça doit nous interroger sur notre état intérieur, sur notre état spirituel. Et cette maladie de cet homme, peut-être, était là aussi pour marquer l'état de son âme. Et vous allez voir où je veux en arriver. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que cet homme, malgré son infirmité, malgré le fait que sa main droite était infirme, était sèche, on pourrait dire était stérile, était morte, cet homme était en vie. On peut très bien s'imaginer, la Bible ne le dit pas, mais on peut très bien imaginer que cet homme avait une épouse, avait des enfants. On peut imaginer que cet homme peut-être possédait sa maison, était propriétaire. Est-ce que ça l'empêchait d'être propriétaire? Ben non. Est-ce que ça pouvait l'empêcher de se marier, d'avoir une famille, d'avoir un cercle d'amis, de faire ce que la vie peut-être pouvait lui proposer? Bien sûr, il ne pouvait pas faire comme tous les autres. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un homme qui est aidé, qui a de l'aide, et il arrive à vivre ainsi. Mais ce qui doit nous interpeller cet après-midi, c'est que finalement, cet homme, dans tout ce qu'il pouvait faire, dans tous les endroits où il pouvait aller, lorsque peut-être il parlait à son épouse, à ses enfants, lorsqu'il conseillait les gens, c'était peut-être un homme qui avait une bonne morale, une bonne manière de vivre. Il y avait aussi en parallèle cette réalité qu'il ne pouvait pas cacher, qu'il ne pouvait pas enlever de sa vie. C'était que quand bien même lui était vivant, quand bien même il existait, la mort était attachée à lui. La sécheresse était attachée à lui. On pourrait dire la stérilité était attachée à lui. Il pouvait essayer de cacher cela. Et vous savez, notre péché n'est pas visible aux hommes. N'est pas forcément visible aux hommes. Vous savez, il n'y a que Dieu qui sait lire dans nos cœurs. Cet après-midi, il n'y a que Dieu qui sait comment nous sommes venus dans ce lieu, dans quel état nous sommes, qui connaît nos attentes, qui sait ce que nous avons fait, peut-être ce matin, durant la semaine, hier, avant-hier. Il n'y a que Dieu qui sait. Entre nous, on peut se cacher beaucoup de choses. On peut essayer d'afficher quelque chose, mais finalement, ce qui doit nous intéresser, ce qui doit nous amener à réfléchir cet après-midi, c'est est-ce que nous, peut-être, dans une certaine mesure, est-ce que nous sommes semblables à cet homme, tout en étant vivant, la mort est attachée à nous. Tout en étant vivant, tout en vaquant à nos activités, tout en travaillant, en ayant des projets d'avenir professionnels, des projets au niveau des sentiments d'un conjoint, du choix d'un conjoint, est-ce que, en parallèle, nous avons réglé notre vie par rapport à Dieu? Est-ce que notre péché est toujours là? Vous savez, la Bible traite de ce sujet et nous devons prendre cela avec beaucoup de sérieux. On peut se souvenir de cet homme qui a vu son fils partir. Le fils a demandé l'héritage, le fils voulait vivre ses expériences. On est comme ça des fois. Et vous savez, lorsque, après beaucoup, beaucoup de péripéties, après avoir vécu plusieurs, on pourrait le dire, cartons dans sa vie, le fils a voulu revenir vers le père. Et vous savez, le père va dire quelque chose qui exprime cette pensée qui est présente dans toute la parole de Dieu. Il va dire, mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Mais son fils n'était pas mort physiquement. Son fils était mort spirituellement. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de la vie éternelle est en Jésus-Christ. Et vous voyez, cet homme, tout le monde le connaissait. Cet homme qui avait la main sèche. Tout le monde savait qu'il avait un problème. Mais personne ne pouvait l'aider. On s'habitue, vous savez, à vivre avec le péché. On s'habitue à voir la misère. On s'habitue dans notre vie à vivre des temps de désespoir, des temps d'échec. On s'habitue à voir le péché ravager notre être. On s'habitue quelquefois à voir la souffrance s'installer dans notre corps. On s'habitue à vivre d'une manière qui peut-être, quelque temps auparavant, nous aurions condamné nous-mêmes si nous l'avions vu dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, pour Jésus, lui, il n'y avait pas d'habitude. Ce n'était pas écrit, ce n'était pas une fatalité, ce n'était pas entériné, ce n'était pas écrit, décidé que cet homme devait vivre toute sa vie ainsi. Et cet après-midi, si nous sommes là ensemble, c'est parce que ça intéresse Jésus-Christ que nous soyons là. C'est parce que pour Jésus-Christ, les choses ne sont pas marquées comme devant être ainsi dans notre vie. Pour Jésus-Christ, alors que peut-être pour les autres, c'est ainsi, pour lui, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une espérance. Jésus va dire à cet homme, « Lève-toi, lève-toi là au milieu. » C'est pas évident, ça. C'est pas évident d'avoir les regards centrés sur soi. C'est pas évident de se dire qu'on risque d'être découvert. Mais cet homme l'a fait. Et vous voyez, si les pharisiens, eux, avaient le souci de critiquer, avaient le souci d'accuser, avaient le souci de peut-être se moquer, Jésus, lui, il a toujours le souci de bénir. Il y a la pensée des hommes, mais au-delà de ça, il y a la pensée de Dieu. Il y a le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de sauver les hommes. Le plan de Dieu, c'est d'offrir le pardon. Le plan de Dieu, c'est de permettre que votre vie puisse changer, évoluer. La pensée des hommes, c'est de dire que c'est ainsi, que c'est fini. Et cet homme va se lever. Et je ne sais pas, peut-être, si c'est la première fois que vous lisez ce texte, vous vous êtes peut-être posé la question. Et si vous êtes accoutumé, peut-être vous vous l'êtes déjà posé. Pourquoi est-ce que Jésus pose cette question ? Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ? Alors on peut comprendre, parce que juste avant, justement, il a enseigné sur le sabbat. On peut comprendre que Jésus ait voulu les interpeller par rapport à leur manière de voir la loi, par rapport à leur manière de considérer Jésus-Christ, on pourrait dire de considérer la loi de Dieu, la volonté de Dieu. Mais il y a un texte qui est venu sur mon cœur lorsque je méditais les Écritures. Vous savez, la synagogue, c'était un endroit où les pharisiens, où ceux qui connaissaient la parole se réunissaient. C'était un endroit qui rassemblait le peuple juif, qui était habitué à lire l'Ancien Testament. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, au tout début du livre de la Genèse, on y voit la chute de l'homme et de la femme. Et le serpent qui est venu vers Ève, vous connaissez ce texte, c'est dans Genèse chapitre 3, on ne peut pas tout relire, ça serait trop long cet après-midi. Mais le serpent va les amener à se leurrer. Et le serpent, c'est bien sûr le diable, va dire, lorsque la femme va dire, mais non, on n'a pas le droit de manger du fruit de cet arbre, le serpent va leur dire, mais non, ce n'est pas vrai, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Les pharisiens, eux, ils connaissaient bien ce texte. Connaissant le bien et le mal. Et on se retrouve des centaines et des centaines d'années plus tard, et vous voulez que je vous dise, l'homme, il n'est pas capable de connaître, de savoir, de décider ce qui est bien et de ce qui est mal. L'homme a cru qu'il pouvait être comme Dieu, mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Et le drame, c'est que l'homme préfère les mensonges du diable que la vérité de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus était là et qu'il a posé cette question, les pharisiens ont dû penser à ce texte. Ils auraient dû avoir cette honnêteté et de comprendre que Jésus était en train de peut-être de révéler l'état de leur cœur. Eux qui se sentaient tellement supérieurs, eux qui pensaient finalement qu'ils étaient arrivés peut-être au même niveau que Dieu, se sont retrouvés peut-être dans le même état que cet homme, si ce n'est que ce n'était pas la main droite qui était sèche, c'était leur cœur. Qui cet après-midi peut dire « mais nous on arrive à pouvoir connaître, à être comme des dieux ». C'est là l'orgueil de l'homme. Mais dans le fond, chacun d'entre nous, nous savons très bien que nous ne pouvons pas y arriver. Dans le fond, nous sommes obligés d'avoir cette honnêteté et de dire « mais c'est impossible ». On a pu essayer dans nos vies. Le jeune homme qui a quitté son père a essayé. Il était sûr de lui. Il s'est dit « mais moi, ne t'inquiète pas, tu sais père, je vais savoir discerner le bien du mal. Je vais arriver à faire ce qui est bien, mais ce n'est pas vrai. » Parce qu'en faisant ça, on croit au mensonge du diable. Et cet après-midi, vous savez, il y a ce verset de l'Écriture qui nous rappelle que c'est la vérité qui nous affranchit. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour nous affranchir, pour que nous puissions avoir cette honnêteté, cette droiture de cœur, d'avouer que nous ne pouvons pas nous en sortir sans lui. La réaction ce jour-là de tous les hommes, c'était qu'ils ont gardé le silence. Ils ont gardé le silence. Pourtant, ils avaient des cerveaux à plusieurs étages. Mais ils ont gardé le silence. Vous savez, lorsqu'on est pécheur devant Dieu, on se retrouvera toujours muet. Face à Dieu, on sera toujours muet. Notre péché nous amènera toujours à être muet. Il y a des hommes, des femmes qui pensent qu'ils vont pouvoir s'expliquer devant Dieu, qui vont pouvoir dire « mais si j'ai fait ça, c'est dû à mon passé, c'est dû à mon histoire personnelle ». Mais ce n'est pas vrai. Devant Dieu, on va vivre ce que ces hommes ont vécu. On va garder le silence. On n'aura rien à dire. Alors si j'arrêtais là mon message, ça serait quand même bien triste, parce que l'Évangile, ce n'est pas que ça. L'Évangile, c'est la solution de Dieu. C'est la bonne nouvelle de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Vous savez, lorsqu'il a demandé à cet homme de se lever, Jésus savait ce qu'il allait faire. Et il y a plusieurs textes qui disent, qui expriment qu'il tressaillait de joie. Il tressaillait, frémissait dans son être intérieur lorsque Jésus allait ressusciter Lazare. Et lorsqu'il était face à cet homme que les autres personnes condamnaient, Jésus, lui, savait que le salut était pour lui. Pourtant, ce jour-là, tous avaient besoin du salut. Mais il n'y en a qu'un qui a su s'emparer, accepter le plan de Dieu pour sa vie. La Bible nous dit, on continue un peu, que face au silence des personnes, Jésus va être affligé de l'endurcissement de leur cœur. Et vous savez, ce mot endurcissement, on pourrait le traduire et on pourrait l'expliquer, le sens littéral, c'est intéressant. Ça veut dire c'est recouvert d'un cal. On pourrait dire, et je vous dis la traduction, c'est épaississement et durcissement de l'épiderme qui se frotte à la suite d'un frottement continu. Vous savez, ça veut dire que lorsqu'on écoute l'Évangile, on est face à cette réalité, on est face à ce choix, c'est que si on n'accepte pas, notre cœur s'endurcit. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, c'est ainsi. La Bible nous dit, si aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que le Seigneur sait très bien que plus on endurcit notre cœur, plus il y a une couche qui vient devant notre cœur. Et ça deviendra difficile à l'Évangile de pénétrer notre âme. Et Jésus, vous savez, s'il se permet de dire cela, ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour expliquer que cet après-midi, peut-être cela fait plusieurs fois que quelqu'un entend le message de l'Évangile, peut-être que cela fait quelque temps, mais aujourd'hui, il est peut-être temps de prendre position. Vous savez, il est peut-être temps de se lever, de se tenir debout, de se réveiller pour faire ce que Dieu nous demande. Jésus va dire à l'homme, étends ta main. Étends ta main. Est-ce que, lorsque vous lisez ce texte, je ne sais pas, moi je me suis imaginé si Jésus a dit ça, c'est que cet homme avait la main contre lui. Le long de son corps, c'est qu'elle devait être cachée. Et ça lui a demandé sûrement du courage à cet homme. Mais c'est ce que la Bible nous dit et c'est ce qu'elle nous invite à faire cet après-midi. Parce que la Bible nous dit que Jésus s'est chargé de nos douleurs, que c'est nos souffrances qu'il a portées. La Bible nous dit qu'il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. La Bible nous dit que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Mais il y a cette réalité, c'est que Jésus ne va pas prendre nos infirmités si on ne lui donne pas. Jésus ne va pas prendre notre péché si on ne lui donne pas. Il y a cette réalité, cet après-midi, c'est que pour être délivré, il faut nous aussi, par un acte de foi, étendre notre bras, étendre notre main, accepter que Jésus-Christ prenne le contrôle de notre vie, accepter que Jésus-Christ intervienne dans notre vie. Peut-être vous avez l'image d'une personne qui va venir avec violence, qui va venir ravager votre identité ou que sais-je encore, mais c'est faux. Jésus, lui, se tient là debout. Jésus a dit à cet homme, lève-toi. Jésus a dit à cet homme, étends ta main. On ne voit nulle part dans l'Évangile Jésus qui vient pour bousculer quelqu'un. Et cet après-midi, de la même manière que la Bible nous dit que Jésus a pris nos infirmités, qu'il s'est donné sur le bois de la croix, que son sang a coulé pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés, cet après-midi, nous devons faire également pour notre part un acte de foi, étendre notre main, étendre notre péché et laisser Jésus-Christ le prendre. Vous savez, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire ça. Mais je pense que ce jour-là, cet homme a été content de le faire. Je pense que ce jour-là, il a été béni. Et laissez-moi vous dire que la volonté, le désir de Dieu, c'est de bénir une personne cet après-midi. Une personne qui s'est peut-être habituée à souffrir, habituée à vivre dans le désespoir. Pour Jésus-Christ, il y a toujours une solution. Je terminerai avec cette pensée. Qui est aussi omniprésente dans le Nouveau Testament à chaque fois que Jésus va faire un miracle. La réaction des pharisiens, ça n'a pas été de louer le Seigneur, ça n'a pas été de glorifier Dieu, ça n'a pas été de dire merci à Jésus-Christ. La seule réaction qu'ils ont trouvée, c'est de sortir pour trouver un moyen de le faire périr. Et dans notre vie, vous savez, bien des fois, nous avons aussi ce pouvoir. Bien des fois, nous pouvons faire périr la parole de Dieu. Bien des fois, nous avons pu faire périr l'amour de Dieu pour nous. Bien des fois, alors que Jésus nous disait qu'une seule chose, mais étends ta main, on pourrait le traduire d'une manière différente, c'est « donne-moi ton péché, donnez-moi vos péchés », parce que Jésus s'est donné pour cela, nous avons tourné le dos à Jésus-Christ. Nous avons tourné le dos à l'Évangile et laissez-moi vous dire que nous avons fait ce que ces pharisiens ont fait. On est toujours confronté à un choix, vous savez. Cet après-midi, demain, après-demain, est-ce que nous allons accepter que Jésus-Christ révèle notre péché pour nous soigner, pour nous guérir, pour nous délivrer, ou nous n'allons pas l'accepter? Les pharisiens, eux, ont choisi. Ils ont décidé, ils se sont consultés pour trouver un moyen de tuer Jésus-Christ. Plaise à Dieu que cet après-midi, vous ne repartiez pas de ce lieu en tuant cette parole pour vous, mais en l'acceptant. On peut prier le Seigneur ? Notre Dieu, nous voulons te bénir, honorer ton nom, te remercier pour ta parole, te remercier pour le message de l'Évangile, te remercier parce que tu es là, ta parole nous le dit, et ton désir, c'est de sauver encore, c'est de guérir, c'est de bénir. De la même manière que tu as permis à cet homme de rentrer dans ton plan, tu désires faire de même pour nous. Seigneur, nous ne voulons plus écouter les mensonges de l'ennemi de nos âmes. Nous ne voulons pas écouter que nous pouvons être comme des dieux, mais nous voulons t'écouter, toi. Nous voulons accepter que le salaire du péché, c'est la mort. Nous voulons accepter que nous sommes incapables de faire le bien, de discerner entre le bien et le mal. Nous voulons accepter, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Seigneur, glorifie-toi, manifeste-toi cet après-midi. Tu connais les cœurs, tu sais, Seigneur, ces bien-aimés, dans quel état ils sont venus, ce qu'ils attendent. Seigneur, réponds à leurs besoins, dans ta grâce, dans ta bienveillance. Merci pour tout ce que tu comptes faire et ce que tu vas faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.